Radio Okapi.
C'est l'heure du journal présenté par Belinda Boussouma.
La taxe RAM n'est pas suspendue, c'est plutôt le système qui consistait à bloquer tous les utilisateurs non en règle de paiement de cette taxe qui est suspendu. Précision de l'ambassadeur RAM face aux rumeurs qui ont circulé ce week-end sur les réseaux sociaux. L'ONU va poursuivre la collaboration avec les nouvelles autorités provinciales du Nord Kivu et de l'Ituri. Propos du secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, dans une interview à Radio Okapi. Sur le terrain au Nord Kivu, les nouveaux dirigeants viennent de prendre officiellement leurs fonctions et ceux de l'Ituri viennent d'arriver à Bunia. Et puis, l'invité de ce soir, Stijn Ouben, chef de sous-délégation du CICR Sud-Kivu et Maniema. Il nous parle de la situation des déplacés des conflits armés dans les... Madame, Messieurs, bonsoir. La taxe sur le registre des appareils mobiles RAM n'a pas été suspendue, contrairement à toutes les rumeurs qui ont circulé ce week-end sur les réseaux sociaux. C'est plutôt le système qui consistait à bloquer tous les utilisateurs qui n'étaient pas en règle avec le paiement de cette taxe qui a été suspendue. Cette déclaration a été faite aujourd'hui à Radio Okapi par Kevin Lutea, ambassadeur RAM. Il intervenait dans l'émission Okapi Service animée par Marcel Ngombo. Kevin Lutea, dans ses propos choisis par Alain Rungmushinj.
La taxe n'a pas été suspendue. Il s'agit de la suspension du système billing qui consistait à bloquer tous ceux qui n'étaient pas en règle avec le paiement de la taxe RAM. Ce qui s'est fait que parmi les revendications de la population, la RPTC a jugé bon de suspendre le système de paiement billing qui n'est que le système de tarification. Et il y a plusieurs améliorations qui sont déjà en cours pour permettre à la population d'accéder encore plus rapidement à leur service habituel. Mais en ce qui en est de la taxe RAM, la taxe n'a pas été suspendue. Il s'agit tout simplement du système billing.
Expliquez-nous clairement, c'est quoi ce système billing 2.1?
Le système billing, c'est tout simplement le système de tarification qui était mise en place pour justement bloquer toutes les personnes qui ne payaient pas, hein. Ce n'est pas un paiement, moi j'aime bien l'appeler contribution, qui ne contribuaient pas à cette taxe. Beaucoup de personnes qui ont accumulé des retards ont vu le système bloqué en fait.
Notez que le montant de cette taxe est revu à la baisse et entrera en vigueur dans les deux prochaines semaines, a précisé l'ambassadeur RAM Kevin Lutea. Je vous le disais en titre, les Nations Unies vont poursuivre la collaboration avec les nouvelles autorités militaires nommées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Propos de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de la paix. Pour lui, au-delà de la dimension sécuritaire, il y a un besoin d'une approche intégrée qu'il faut explorer et travailler avec les autorités congolaises. Jean-Pierre Lacroix l'a dit dans une interview accordée à Radio Okapi. On l'écoute au micro de Kéline Kouté.
D'abord, il y a une collaboration qui est ancienne entre les autorités, notamment les autorités militaires, les FARDC et la MONUSCO, qui se traduit de plusieurs manières, y compris par un soutien et un travail conjoint dans ces régions. Et donc, nos collègues de la MONUSCO vont voir de quelle manière, dans cette nouvelle phase, faire évoluer cette coopération. Mais je pense que pour ce qui concerne les défis de ces régions de l'Est, il y a un besoin d'une approche intégrée. Et c'est ce que nous voulons aussi explorer, travailler avec les autorités congolaises. La dimension sécuritaire est pertinente et importante, mais il y a aussi un travail qui va au-delà, un travail de paix, de dialogue, de rapprochement des communautés, un travail aussi visant à faire en sorte que l'exploitation des ressources naturelles de ces régions bénéficie au pays, à l'ensemble des communautés, et non pas au circuit criminel. Et sur tous ces dossiers, nous sommes prêts à travailler avec les autorités congolaises, aussi bien au niveau national que local.
Sur le terrain au Nord Kivu, le nouveau gouverneur militaire et son adjoint de la police ont pris officiellement leurs fonctions ce lundi à la tête de la province. Le lieutenant-général Constant Ndima et le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo sont arrivés à Goma en début d'après-midi. La remise est reprise avec l'administration civile de Karlin Zanzuka Sivita est intervenue tout de suite après leur arrivée. Témoin de l'événement, Bernardin Nyangi.
C'est autour de 13h de Goma que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant et son adjoint, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo, ont atterri à l'aéroport international de Goma. Ils ont été accueillis par les autorités civiles et militaires de la province, les députés provinciaux et une foule nombreuse de militants des partis politiques. La remise est reprise avec l'administration civile de Karlin Zanzuka Sivita est intervenue sous le coup de 15h locales. C'est jusqu'ici La majorité de la population espère que cet état de siège pourrait restaurer la paix au Nord Kivu après plus de deux décennies de conflits armés. Ce remplacement de l'administration civile par l'administration militaire suscite cependant quelques réserves. Certains acteurs politiques soumis à un congé technique forcé craignent surtout pour leur social durant la période de l'état de siège, ce après avoir accumulé de nombreux mois impayés, disent-ils. Rappelons que c'est depuis le 6 mai dernier que la province du Nord Kivu est sous l'état de siège pour une durée de 30 jours renouvelable. Le chef de l'État, qui l'a décrété, vise l'éradication de l'insécurité caractérisée par des tueries de populations civiles dans la région. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, le nouveau gouverneur militaire et son adjoint de la police sont arrivés cet après-midi à Bunia au cours d'un point de presse à l'aéroport Murongo de Bunia. Le général Jonin Kashama a déclaré que sa priorité pendant cet état de siège décrété par le chef de l'État est la pacification de cette province à travers l'éradication de tous les groupes armés. Il a ajouté que cette mission doit passer par l'étroite collaboration entre les services de sécurité sur le terrain. Cependant, le général Kashama met en garde les membres de la communauté qui sont de connivence avec les groupes armés. Le nouveau gouverneur de l'Ituri s'est exprimé au micro du service de presse de l'armée. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ezekiel Mouzalia.
Je crois que cette population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée, spécialement moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Je leur demande tout simplement la collaboration. Qu'ils ne suivent, que la population ne suive pas la voie de sirène. C'est-à-dire tous ces, je ne sais pas moi, ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux. Ils doivent quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration.
Entre-temps, à Beni, le Parlement d'enfants invite les parents à prendre leurs responsabilités pendant cette période d'état de siège au Nord Kivu notamment. Les parents doivent tout faire pour que leurs enfants ne tombent pas dans ce qu'il appelle manquement vis-à-vis de la loi. Le coordonnateur Joël Kavuya appelle également la communauté à accompagner cette période cruciale, dit-il, car c'est les derniers résultats attendus qui comptent. Le coordonnateur du Parlement d'enfants dans le Grand Nord s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Du côté parent, ce n'est pas parce que je suis émotionnel que je dois pousser mon enfant à agir. Mais le manquement va frapper l'enfant. Mais on va voir aussi qui est caché derrière l'enfant, c'est le parent. La personne adulte aura utilisé l'enfant pour de fait. Et ça sera ce qu'on appellera infraction. Toute personne âgée de plus de 18 ans est adulte et doit s'assumer. Et nous, étant que parlement d'enfants, nous disons que l'état de siège, le temps de siège auquel nous sommes soumis actuellement, elle est appuyée par une loi. Peu importe acteur qu'on soit, de protection. On ne protège mieux que si on est d'abord protégé. Je fais appel à la communauté de comprendre que toute chose qui arrive dans la vie a un début et une fin. Si l'état de siège peut commencer maintenant, et si on peut s'éluer en fait que notre pays soit dans les processus du développement, ne voyons pas seulement les mauvais côtés des choses, voyons aussi les bons côtés. Si les bons résultats permettra que la paix pour une éducation meilleure soit dans notre côté, dans l'état de siège. Pour nous, c'est la finalité qui compte.
Notez que le calendrier scolaire vient d'être légèrement revu au niveau de la sous-division de l'EPST Beni en prolongeant les horaires de cours, décision prise à l'unanimité au cours d'une rencontre entre le sous-proved et les responsables des écoles de la place le week-end. C'est pour récupérer la vingtaine des jours perdus lors des récentes journées sans activité à Beni. À l'école primaire, au lieu de 8 heures de cours, le calendrier réaménagé prévoit 10 heures de cours par jour. Et puis, journaliste en danger, Jed s'est dit profondément choqué par l'assassinat d'un journaliste hier vers 23h par deux hommes armés non identifiés dans la localité de Kichanga, territoire de Masisi, au Nord Kivu. Selon les différents témoignages recueillis par Jed, Barthélémy Kubana Bandou, journaliste animateur de l'émission intitulée « Sécurité alimentaire » diffusée sur les ondes de la radio communautaire de Kichanga, Kouraki FM, a été attaqué dans l'enclos de son domicile par deux hommes armés en tenue civile qui lui ont tiré 8 balles à bout portant. Après avoir commis leur forfait, ces assaillants ont emporté le téléphone portable du journaliste avant de s'enfuir, ajoute la même source. Merci de nous recevoir dans le territoire de Massimanimba, au Kwilu. 15 personnes mortes foudroyées sous une pluie torrentielle qui s'est abattue ce week-end sur le village Kandodi, secteur de Sungu, et sur la cité de Massimanimba. Information livrée par l'administrateur du territoire ce lundi à Radio Kapi, Jean Bosco Mukubidi, dit avoir éprouvé des difficultés pour enterrer les victimes. Le récit de Irène Boma.
Selon l'administrateur du territoire de Massimanimba, c'était autour de 17h locales de samedi dernier que cette catastrophe naturelle est survenue alors qu'il pleuvait. Parmi ces 15 personnes foudroyées et mortes sur les champs dans ce territoire, Jean Bosco Mukubidi indique qu'il y a eu 14 qui étaient toutes dans une même maison au village Kandodo, nom a-t-il rapporté. Très touché, Jean Bosco Mukubidi s'exprime en ces termes.
Comme c'est une mort naturelle, là on peut condamner personne, mais la difficulté est que pour enterrer 14 personnes, ça a été vraiment un peu compliqué. Nous n'avons pas de morts, il ne faut pas se garer jusqu'à ce temps. Et tout a été fait. Le gouvernement provincial était saisi de l'information. Toute une famille qui est décédée, ça fait très mal, mais au clan, je demande qu'il y ait du calme. On sait comment ça s'est passé, quelle est l'origine de la foudre. Donc là, c'est à Dieu lui-même de décider.
Il s'y est de signaler que c'est dans les après-midi d'hier dimanche que toutes ces victimes ont été enterrées. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Direction le Lualaba. Les différentes communautés vivant dans cette province sont invitées à travailler pour promouvoir la paix et la cohabitation pacifique. Appel lancé ce week-end par le cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Pour cette structure citoyenne, cette province traverse une période de turbulence politique qui peut freiner l'élan de développement. Pour cela, il invite les uns et les autres au calme et à la tolérance. Shadrach Moukad, président du cadre de concertation de la société civile du Lualaba, joint par Jean Gandou.
La province du Lualaba traverse une période de turbulences politiques qui risque de compromettre la paix, la convivialité, la cohésion et la stabilité des institutions provinciales légalement établies. C'est pourquoi le cadre de concertation de la société civile du Lualaba invite les forces vives, politiques et sociales à travailler pour la paix et la concorde, à combattre l'esprit de division qui est une arme de nuisance contre le développement, à cultiver la tolérance et le patriotisme afin de sauvegarder l'élan du développement déjà entamé. C'est pourquoi le cadre de concertation encourage toutes les forces vives, toutes les communautés à vivre ensemble, à promouvoir la concorde et la convivialité, à travailler tous pour la paix, la coexistence pacifique et à promouvoir les dialogues et la tolérance. Les cas de concertation les invitent tous à ne pas détruire ce qu'on a construit ensemble.
Dans l'actualité aussi, le député national Toumba Tchabola dénonce le détournement de 3 800 000 francs congolais de la rétrocession allouée au territoire de Katanda, au Kasaï oriental. Dans une déclaration aujourd'hui à Radio Kapi, il accuse l'ancien gestionnaire de ce territoire, qui est sous le coup d'une suspension, d'avoir détourné cette somme. Il appelle les services compétents à l'arrêter et à démanteler ce réseau mafieux. Cette information est confirmée par l'administrateur de Katanda. Par ailleurs, l'élu de ce territoire appelle aussi la régie des eaux à faire diligence pour mettre en œuvre le projet d'adduction d'eau sur place. Le député Ntumba Tchabola au micro d'Alain Rung.
Nous dénonçons le détournement des frais de rétrocession du territoire de Katanda de l'ordre de 3 800 000 francs congolais par l'ancien gestionnaire de la cité de Katanda, M. Luku Samayent, suspendu et actuellement en fuite depuis plus de 10 jours. Nous exigeons son arrestation immédiate par les services attitrés afin qu'il réponde de ses actes ignobles et aussi de démanteler et de poursuivre toute la chaîne ayant facilité le détournement de cette inique somme des mois payés par le gouvernement central. Le gouvernement provincial doit agir promptement pour que les concernés soient mis hors état de nuire. Nous rappelons au directeur général de la régie des eaux que jusqu'à ce jour, la cité de Katanda continue à attendre l'adduction d'eau, ceci malgré la disponibilité du groupe électrogène de 16 KVA de Katanda dans la ville de Mbujima dans les installations de la régie des eaux, et que l'équipe de techniciens de la régie des eaux envoyée en mission pour faire un état des lieux des infrastructures du centre de Katanda. Jusqu'à ce jour, cette équipe n'est pas encore arrivée à Katanda. Voilà pourquoi nous vous demandons de faire diligence afin que cette équipe aille à Katanda et que l'eau soit rétablie dans la cité de Katanda.
Actualité internationale. Covid-19, une course à la montre en Tunisie. Les hôpitaux sont à bout de souffle et le personnel soignant peine à prendre en charge les malades de Covid-19 et à trouver l'oxygène nécessaire pour les cas les plus graves. Bien que réticent à imposer des nouvelles restrictions en pleine crise sociale, le gouvernement a décidé ce week-end d'imposer un nouveau confinement d'une semaine qui coïncide avec la fin du Ramadan le 16 mai, avertissant que le système de santé menaçait de s'écrouler alors que ses besoins ont dépassé ses capacités de production. La Tunisie doit se tourner vers l'Europe et l'Algérie pour se procurer de l'oxygène. Entre-temps, en Afrique du Sud, 4 cas du variant indien du Covid-19 ont été détectés ce week-end. Ce pays a été durement touché par l'épidémie avec 1,6 million de personnes contaminées en un an et 55 000 morts. Les autorités appellent à ne pas céder à la panique, mais la population s'inquiète. Et sur place en Inde, le pays peine toujours à faire baisser le niveau de contamination au Covid-19. L'Inde a enregistré ces derniers jours environ 400 000 cas quotidiens, soit la moitié de ceux rapportés dans le monde. Dans la capitale, toutefois, la crise humanitaire est moins aiguë grâce à une stabilisation du nombre des cas et surtout à l'arrivée d'oxygène.
L'invité.
Il s'agit de Stijn Ouben, chef de sous-délégation du CICR Sud-Kivu et Maniema. Il nous parle de la situation des déplacés des conflits armés dans le Sud-Kivu. C'est en marge de la Journée internationale de la Croix-Rouge, célébrée le 8 mai de chaque année. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le chef de la sous-délégation du CICR Sud-Kivu, Maniema, bonjour.
Bonjour.
La province du Sud-Kivu compte des milliers, plusieurs dizaines de milliers de déplacés à Katana, dans la plaine de la Ruzizi à Bweghera, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi à Mikenge aussi, il y a des déplacés. Qu'est-ce que le CICR, avec ses partenaires humanitaires, fait en faveur de cette catégorie de personnes déplacées?
Tout à fait, le CICR est actuellement très engagé dans toutes les conséquences qui sont générées par le conflit, soit dans le territoire de Calais, soit dans le territoire ou la zone de haut plateau d'Ouvira, les moyens plateaux vers la plaine de Ruzizi aussi. Par rapport au le territoire de Calais, le CICR est en train de voir et en train de coordonner aussi avec des autres acteurs humanitaires présents pour entamer une réponse humanitaire aux déplacés, soit du côté Bouchak ou soit du côté Bouniakiri. Et on espère dans quelques jours, semaines, que la communauté humanitaire aura une réponse prête pour les déplacés. Et le CICR est aussi engagé pour se positionner et entamer certaines activités pour répondre aux besoins humanitaires qui se trouvent au sein de la communauté déplacée dans le territoire de Calais. Par rapport aux nouveaux déplacements qui se génèrent aussi au plateau et moyen plateau, le CICR va de plus en plus s'engager dans la zone de Minem et de Mikeng où on est déjà présent, mais on va aussi renforcer nos activités, soit dans la promotion de droits humanitaires auprès de tous les acteurs armés dans le coin, mais aussi dans la Medevac, l'évacuation des blessés pour sauver leur vie et autres domaines de l'eau, abri et santé. Par rapport aux zones côté Mbouéguéra, le CICR est déjà y allé aussi jusqu'à Lemera, Malungo, Kalicha, Mbouéguéra, et le CICR est de nouveau en train de coordonner aussi avec les autres acteurs humanitaires afin d'éviter des doublures de réponses. Mais le CICR va aussi essayer de répondre dans les prochains jours, semaines, notamment côté Moulengue, Lemera et côté Bweghera pour les communautés déplacées qui viennent d'arriver tous les jours depuis les hauts plateaux et moyens plateaux.
Partout là où ces déplacés existent, quels sont les besoins prioritaires auxquels ils font face et lesquels nécessitent des réponses immédiates?
Souvent, au moment de déplacement de la population civile, on constate très vite les gens doivent, la population civile doit laisser toutes leurs affaires à la maison. Donc, ils arrivent dans certains villages d'accueil où la population civile d'accueil est déjà très généreuse pour les accueillir sur leur toit, mais ils ne peuvent pas non plus accueillir le grand influx et le nombre de déplacés. Donc, on constate très vite l'aspect d'abri, mais aussi l'aspect d'avoir des outils pour cuisiner et pour cuisiner la nourriture. Et troisième chose, c'est aussi pour remplir leur casserole. C'est aussi souvent les déplacés n'ont plus accès à leur champ, donc ils ont moins d'accès à leur nourriture. Et donc c'est très besoin d'abri, des outils de ménage et la nourriture sont tout de suite les besoins qu'on constate suite à un déplacement. Et en plus aussi, le CICR, parallèlement, renforce soit la capacité de la communauté d'accueil, ou la communauté civile qui accueille les déplacés à travers le projet de santé dans leur centre de santé, parce qu'ils sont aussi plus consultés qu'avant à cause des déplacés qui arrivent, mais aussi l'accès à l'eau et aux soins de santé.
Merci beaucoup, monsieur le chef des sous-délégations du CICR Sud Kivu Maniema.
Merci beaucoup, merci pour vos questions.
Et par ici s'achève ce journal. L'actualité continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Kapi. Merci de nous rester fidèles.